Chapitre 4. J'ai mon 10e entretien d'embauche en 3 semaines et je commence à stresser. Je n'ai même plus assez d'argent sur mon compte en banque pour couvrir 1 mois de loyer. Je sais qu'on est censé avoir 6 mois d'avance en guise de matelas, pour le cas où, mais ça fonctionne mieux en théorie qu'en pratique. J'adorerais avoir un matelas de 6 mois à la banque. Bon sang, j'adorerais avoir 2 mois d'avance. Au lieu de ça, j'ai moins de $200. Je ne sais pas quelle erreur j'ai commise lors des 9 précédents entretiens pour des postes de ménage ou de babysitting. L'une des bonnes femmes m'a carrément assuré qu'elle avait l'intention de m'embaucher. Pourtant, 1 semaine s'est écoulée et je n'ai pas reçu la moindre nouvelle de sa part, ni d'aucune des autres. J'en déduis qu'elles ont vérifié mes antécédents, et ça s'est arrêté là. Si j'étais n'importe qui d'autre, je pourrais simplement m'inscrire dans une sorte de service de nettoyage à domicile et je n'aurais pas à passer par ce processus. Seulement, aucune de ces entreprises ne veut m'engager. J'ai essayé. Mes antécédents rendent la chose impossible. Personne ne veut ouvrir les portes de sa maison à quelqu'un ayant un casier judiciaire. Voilà pourquoi j'en suis réduite à mettre des annonces en ligne en espérant un miracle. Je n'ai pas beaucoup d'espoir non plus pour l'entretien d'aujourd'hui. Je dois rencontrer un certain Douglas Garrick qui vit dans un immeuble de l'Upper West Side, juste à l'ouest de Central Park. C'est un de ces bâtiments gothiques dont on voit s'élever les mini-tours à l'horizon. On en ressort avec la vague sensation qu'on le verrait plutôt entouré de douves et gardé par un dragon au lieu d'offrir une entrée directe depuis la rue. Un portier aux cheveux blancs m'ouvre et me salue en effleurant sa casquette noire. Alors que je lui souris, j'ai à nouveau cette sensation de picotement dans la nuque, comme si quelqu'un m'observait. Depuis ce fameux soir où je suis rentrée chez moi après m'être fait virer, j'ai éprouvé plusieurs fois la même sensation. Qui n'a rien d'étonnant dans mon quartier du sud du Bronx, où il doit y avoir un agresseur à chaque coin de rue, prêt à bondir si vous avez l'air d'avoir un tant soit peu d'argent. Mais pas ici. Pas dans l'un des quartiers les plus chics de Manhattan. Avant d'entrer dans l'immeuble, je me retourne vivement pour regarder derrière moi. Il y a des dizaines de personnes dans la rue, mais aucune qui me prête attention. Les artères de Manhattan ne manquent pas d'originaux intéressants, et je n'en fais pas partie. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un m'observe. Puis, je vois la voiture. Une berline Mazda noire. Sans doute y en a-t-il des milliers identiques dans cette ville. Pourtant, en la regardant, j'ai une étrange impression de déjà-vu. Il me faut 1 seconde pour comprendre pourquoi. Elle a le phare droit fendu. Je suis certaine d'avoir vu une Mazda noire avec le phare droit fendu garée près de mon immeuble dans le sud du Bronx. Je me trompe ? Je tente de voir à travers le pare-brise. La voiture est vide. Je baisse les yeux vers la plaque d'immatriculation. C'est une plaque de New York, rien de surprenant. Je prends quelques secondes pour mémoriser le numéro. 58 F321. Il ne me dit rien du tout. Cependant, si je revois cette plaque, je m'en souviendrai.
Mademoiselle ?
Lance le portier, me tirant de ma transe dans un sursaut.
Vous entrez ?
Oh, oui, désolée. Je toussote dans ma main et entre dans le hall du bâtiment. Au lieu d'être éclairé par des plafonniers, il l'est par des lustres et des appliques murales censées imiter des torches. Le plafond bas forme un dôme et le tout me donne un peu l'impression d'entrer dans un tunnel. Des œuvres d'art ornent les murs, toutes probablement inestimables.
« À qui venez-vous rendre visite, mademoiselle ?»
me demande le portier.
« Au Garrick. » Appartement 20A.
Ah, fait-il avec un clin d'œil. Le penthouse. Oh, super, une famille à penthouse. Pourquoi est-ce que je me donne seulement la peine de tenter ma chance? Une fois qu'il a appelé à l'étage pour confirmer mon rendez-vous, le portier doit entrer dans l'ascenseur et insérer une clé spéciale afin que je puisse monter au penthouse. Sitôt les portes de la cabine refermées, je me livre à un rapide examen de mon apparence. Je lisse mes cheveux blonds que j'ai ramenés en arrière en un chignon tout simple. Je porte mon plus beau pantalon noir et une veste de survêtement. Je m'apprête à ajuster mon soutien-gorge quand je remarque une caméra dans l'ascenseur. Je m'abstiens donc, préférant ne pas me donner en spectacle au portier. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent directement sur le vestibule du penthouse des Garrick. Je sors de la cabine en prenant une profonde inspiration qui me permet presque de sentir la richesse dans l'air ambiant. C'est un mélange d'eau de toilette onéreuse et de billets de $100 tout neufs. Je reste un moment dans l'entrée, ne sachant pas si je dois m'aventurer plus avant sans y avoir été formellement invitée. Je concentre donc toute mon attention sur un piédestal blanc où se dresse une statue grise. En tout et pour tout, une grande pierre verticale lisse, du genre que l'on pourrait trouver dans n'importe quel parc de la ville. Pourtant, elle vaut probablement plus que tout ce que j'ai jamais possédé au monde.
Millie !
J'entends la voix quelques secondes avant qu'un homme ne se matérialise dans le vestibule.
Millie Calloway ?
C'est Monsieur Garrick qui m'a conviée à l'entretien d'aujourd'hui. Il est inhabituel d'être appelé par l'homme de la maison. Presque 100% de mes précédents employeurs dans le secteur du nettoyage étaient des femmes. Mais Monsieur Garrick semble impatient de m'accueillir. Il se précipite dans le vestibule, un sourire aux lèvres, la main déjà tendue. Monsieur Garrick ?
S'il vous plaît,
dit-il en glissant sa main puissante dans la mienne.
Appelez-moi Douglas.
Douglas Garrick ressemble exactement au genre d'homme que l'on s'imaginerait vivant dans un penthouse de l'Upper West Side. La petite quarantaine, beau dans le genre classique et ciselé, il porte un costume qui a l'air extrêmement cher et ses cheveux châtain foncé sont brillants, coupés et coiffés de façon experte. Ses yeux d'un marron profond luisent d'un éclat perspicace et établissent juste ce qu'il faut de contact visuel avec les miens.
Ravi de vous rencontrer, Douglas.
Douglas Garrick se fend d'un sourire reconnaissant en me précédant jusqu'au vaste salon.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est ma femme Wendy qui s'occupe du ménage en général. Elle met un point d'honneur à tout faire elle-même. Seulement, elle ne se sent pas très bien, alors j'ai insisté pour qu'elle accepte de l'aide.
Sa dernière déclaration me frappe par son étrangeté. Les femmes qui vivent dans d'immenses lofts comme celui-ci n'essaient pas, en règle générale, de tout faire elles-mêmes. Non, les femmes de ce genre ont plutôt des domestiques pour leurs domestiques.
Bien sûr, je réponds néanmoins. Vous disiez chercher quelqu'un pour la cuisine et le ménage ?
Il acquiesce.
Oui, tout ce qui est entretien d'un intérieur, comme le ménage, le rangement et la lessive aussi, bien sûr. Plus la préparation des repas quelques soirs par semaine. Pensez-vous que cela poserait un problème ?
Pas du tout. Je suis prête à accepter à peu près tout. Je fais le ménage en appartement et en maison depuis de nombreuses années. Je peux apporter mes propres produits d'entretien et...
Non, ce ne sera pas nécessaire,
m'interrompt Douglas.
Mon épouse, Wendy, est très difficile en la matière. Elle est sensible aux odeurs, voyez-vous. Elles peuvent lui déclencher des allergies. Vous devrez utiliser nos produits de nettoyage bien particuliers, et sinon...
Absolument, comme vous le souhaitez. Ses épaules se détendent.
Merveilleux. Et nous aurions besoin que vous commenciez tout de suite.
Ce n'est pas un problème.
Bien, bien. Parce que...
poursuit Douglas avec un sourire contrit.
Comme vous pouvez le voir, cet endroit est un peu en désordre.
J'entre dans le salon et regarde autour de moi. Tout comme le reste du bâtiment, ce penthouse me donne l'impression d'avoir été transporté dans le passé. À part le magnifique canapé en cuir, la plupart des meubles ont dû être fabriqués il y a des centaines d'années, puis figés dans le temps pour être disposés spécialement dans ce salon. Si je m'y connaissais un peu plus en décoration intérieure, je saurais peut-être que la table basse a été sculptée à la main au début du XXe siècle ou que la bibliothèque, avec ses portes vitrées, date de, je ne sais pas, la période néoclassique française ou quelque chose comme ça. Tout ce que je peux dire avec certitude, en l'occurrence, c'est que chaque objet doit coûter une petite fortune. Et je sais aussi autre chose. Cet appartement n'est pas en désordre. C'est même le contraire du désordre. Si je devais commencer le ménage là, sur le champ, je ne saurais même pas quoi nettoyer. Il me faudrait un microscope pour débusquer un grain de poussière. Je ne vois aucun inconvénient à commencer quand vous voudrez, je lui indique prudemment. Douglas hoche la tête en signe d'approbation.
Fantastique! Je suis ravie de l'entendre. Veuillez donc vous asseoir, que nous puissions discuter un peu plus.
Je m'assieds à côté de Douglas, sur le canapé modulable, m'enfonçant profondément dans le cuir souple. Oh, bon Dieu, c'est la matière la plus agréable que j'ai jamais sentie contre ma peau. Je pourrais quitter Brock et épouser ce canapé. Tous mes désirs seraient comblés. Douglas me dévisage de ses yeux enfoncés sous une paire d'épais sourcils brun foncé.
Alors, parlez-moi de vous, Millie.
J'apprécie d'emblée qu'il n'y ait pas le moindre soupçon de flirt dans sa voix. Ses yeux restent respectueusement fixés sur les miens et n'en dérivent pas, ni vers mes seins, ni vers mes jambes. Je n'ai eu qu'une fois une aventure avec un de mes employeurs et je ne recommencerai jamais, jamais de la vie. Je préférerais m'arracher moi-même une dent avec une paire de pinces. Je m'éclaircis la voix. Eh bien, je suis actuellement étudiante au centre universitaire. J'envisage de devenir assistante sociale, mais en attendant, je dois financer mes études. Il sourit, dévoilant une rangée de dents blanches parfaitement alignées. C'est admirable. Et vous avez de l'expérience en cuisine ? Je hoche la tête. J'ai cuisiné pour beaucoup de familles chez qui j'ai travaillé. Je ne suis pas cuisinière professionnelle, mais j'ai pris quelques cours. Je fais aussi... Je jette un coup d'œil autour de moi, sans voir le moindre jouet ou signe de la présence d'un enfant ici. Je fais du babysitting. Douglas scie.
Pas besoin de ça.
Je grimace, maudissant ma grande bouche. Il n'a jamais parlé de babysitting. Je viens probablement de le rappeler à d'horribles problèmes d'infertilité. Pardon. Il hausse les épaules.
Pas de souci. Que diriez-vous d'une visite des lieux ?
Le penthouse des Garrick mettrait l'appartement d'Ember à l'amende. En fait, cet endroit appartient à une toute autre catégorie. Le salon fait au moins la taille d'une piscine olympique, avec dans un angle un bar entouré d'une demi-douzaine de tabourets hauts vintage. Malgré le style désuet du salon, la cuisine est équipée d'appareils électroménagers dernier cri, y compris, je n'en doute pas, du meilleur déshydrateur du marché.
Il devrait y avoir ici tout ce dont vous aurez besoin,
me dit Douglas en balayant d'un geste ample le vaste espace de la cuisine. Ça m'a l'air parfait, oui. En tout cas, je croise les doigts pour que le four ait été livré avec une sorte de manuel, histoire que je sache à quoi servent ces dizaines de boutons.
Formidable,
dit-il.
Maintenant, laissez-moi vous montrer l'étage.
Un étage ? Les appartements de Manhattan n'ont jamais de niveau. Et pourtant, apparemment, celui-là, si. Douglas me le fait visiter, me conduisant dans au moins une demi-douzaine de chambres. La suite principale est si grande qu'il me faudrait presque une paire de jumelles pour voir le lit king size à l'autre bout. Il y a une pièce réservée aux livres, ce qui me rappelle vaguement la scène de La Belle et la Bête, où Belle est emmenée dans la pièce aux livres. Une autre pièce semble constituée d'un mur couvert d'oreillers. Je suppose que c'est la pièce aux oreillers. Après qu'il m'en a montré une qui contient ce qui doit être une cheminée artificielle et dont un mur entier n'est rien d'autre qu'une immense baie vitrée avec vue imprenable sur l'horizon de New York, nous arrivons devant une ultime porte. Il hésite, le poing prêt à frapper.
« C'est notre chambre d'amis »,
me dit-il.
« Wendy s'est installée ici, le temps de se rétablir. Je devrais probablement la laisser se reposer. »
« Je suis désolée d'apprendre que votre femme est souffrante. »
« Elle est souffrante depuis pratiquement les débuts de notre mariage, »
explique-t-il.
« Elle souffre d'une maladie chronique. Elle a de bons et de mauvais jours. Parfois, elle est normale. D'autres jours, elle a du mal à sortir du lit. Et d'autres jours...
Quoi ? » Il esquisse un sourire faiblard.
« Rien. De toute façon, si la porte est fermée, c'est qu'il faut la laisser tranquille. Elle a besoin de repos. »
Je comprends parfaitement. Douglas reste un moment les yeux braqués sur la porte, visiblement troublé. Il effleure la paroi du bout des doigts, puis secoue la tête.
« Alors, Millie, » reprend-il enfin, « quand pouvez-vous commencer ?»